simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à local à Saint-Giron, et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est enregistrée. Vous pouvez retrouver nos émissions, comme je le dirai tout à l'heure à la fin, sur le site aussilibertaire.loud.net et sur le blog de Chat Noir 51, mais aussi, vous pouvez constater que c'est une parole anarchiste communiste. Bonsoir, et bien cette émission de ce soir sera consacrée au Chili parce qu'il s'y passe des choses super importantes. On a repris une émission de Fréquence Paris Pluriel, l'actualité des luttes, qui est composée, de toute façon je crois qu'elle est bien présentée cette émission, elle est composée de deux parties, une partie qui est traduite, plus ou moins bien d'ailleurs, et puis une autre partie où c'est quelqu'un qui parle français. À ce propos, d'ailleurs, je leur dirai certainement à la fin de l'émission, vous pouvez lire des textes traduits du chilien sur le site aussilibertaire.l'autre.net. Il y en a 4 qui ont été mis sur ce site, donc le 3 novembre, c'est-à-dire dimanche dernier.
Nous allons vous diffuser plusieurs reportages qui nous permettront de traiter de l'actualité politique au Chili, dans lequel se sont déclenché des mouvements sociaux d'ampleur depuis le 18 octobre dernier. Dans un premier temps, on écoutera le témoignage d'une personne de Valparaiso qu'on a pu récolter et enregistrer dimanche dernier et vous traduire pour cette émission. Et le deuxième reportage que nous vous diffuserons a été réalisé mardi après-midi, lui à Paris, avec un camarade, afin de parler d'une part de ce qui s'était passé de dimanche à mardi et de cette mobilisation de manière plus générale, mais aussi de sorte à revenir sur les différentes mobilisations qui ont été organisées en soutien à ce mouvement social depuis le 18 octobre à Paris. Donc on va écouter le premier témoignage.
Hola, hola, soy Juan Pablo, soy profesor por profesión, profesor de lengua, lingüística, y soy investigador educativo y también...
Salut, je m'appelle Juan Pablo, je suis professeur de profession, professeur de langue en linguistique et chercheur en éducation. Je suis aussi un militant social et culturel à tendance politique anarchiste. Je vis dans la 5e région, Valparaiso, Chili, sur la côte, et j'ai 31 ans.
El contexto político social que explota el 18 de octubre de este presente año no es que responda a una situación espontánea durante
Le contexte politico-social qui explose le 18 octobre de cette année ne répond pas à une situation spontanée. Cela date depuis 30 ans, depuis la fin de la dictature. Il y a eu des manifestations sociales qui ont exigé des changements profonds pour les différentes problématiques sociales qui se sont établies, concrétisées, fortifiées après l'implantation de la Constitution que laissa Pinochet, le dictateur Pinochet, au moment de la transition à la démocratie. Cette supposée transition a été conditionnée par cette Constitution politique qui a comme base le néolibéralisme, par conséquent, qui considère la société dans toutes ses limites comme un marché.
Por esta constitución política, la cual tiene como base el neoliberalismo, por lo tanto, asume la sociedad en todas sus aristas como un negocio. Y este negocio generó que se consolide en Chile un Estado subvencionador de la empresa privada. Por lo tanto,
Et ce marché qui s'est consolidé au Chili généra un État qui subventionna des entreprises privées. De ce fait, ont été associés à l'éducation, la santé, les transports, les pensions de retraite et d'autres types de situations comme les péages, la vente des ressources naturelles, la vente des entreprises nationales, des services de base. Tout s'est retrouvé aux mains des privés qui, pour les concéder, ont généré un niveau de corruption énorme, ce qui a pourri les institutions. Une série de scandales émerge après ça, qui ont comme origine le fait que le pays est devenu plus corrompu. Les institutions ont arrêté de répondre aux intérêts du peuple et ont consolidé les bénéfices pour les entreprises privées. Et de fait, tout ce qui devait être pour les gens.
Más corrupto, las instituciones dejaron de responder a los intereses del pueblo. Y fueron perpetuando y consolidando plusvalías, ganancias para la empresa privada y decadencia en todo lo que debería haber sido para la gente. La salud privada, la educación con foco de privatización.
La santé est devenue privée, l'éducation aussi. Les écoles publiques ont fermé, la qualité du cursus est devenue très mauvaise. On a dû répondre à des normes standardisées à travers l'OCDE. La vente de nos ressources naturelles, de l'eau, de l'océan, des arbres, de la terre, le mauvais traitement infligé aux peuples indigènes, les très mauvaises retraites sur les anciens, le haut coût de la vie, des péages, des autoroutes, des transports, les impôts, les taxes sur les livres, la difficulté de pouvoir vivre une vie digne et de qualité, l'impossibilité d'accéder à un système de santé comme il devrait être selon le coût de la vie. Tout ça est un problème.
De tener acceso a una salud como debería ser según el costo de vida. Todo esto ha sido un problema que ha generado que luego de 30 años de manifestaciones, año a año de movilizaciones desde el sector público, desde el transporte, desde el...
Cela genera 30 ans de manifestations, des années de mobilisation du secteur public, des transports, de l'éducation, de la santé, des gens mécontents du système de retraite. Tous ces secteurs ont manifesté pendant ces 30 ans. Ce qui déboucha nouvellement au mois de septembre et octobre, ce sont une demande des étudiants pour la baisse du prix du métro. Mais survenue une situation très étrange qui fut l'évasion. Cette évasion signifiait ne pas payer le métro en masse et sauter les barrières qui compostent les billets. Cette évasion est devenue massive et s'est transformée en destruction de ces endroits.
Y se le llamó evasión, luego se transformó en evasión masiva y luego se transformó en la destrucción de estos lugares.
Je ne sais pas si c'était planifié ou pas, ou les gens en colère, les étudiants. Je ne sais pas si c'était planifié ou pas, mais les gens en colère, les étudiants ont commencé à détruire. Je ne sais pas si c'était planifié ou pas, mais les gens en colère, les étudiants ont commencé à tout détruire. Et puis le pouvoir coercitif et la manipulation des médias se sont pris aux étudiants. Et à voir cette injustice, tous les gens de tout le pays sont sortis dans la rue. Et ce jusqu'à aujourd'hui, où tous les jours, il y a mobilisation, pillage, destruction du supermarché, destruction de grandes entreprises multinationales, bon, celles qui sont dans les villes, et manifestations dans tous les sens du terme.
No van a lo central. Y lo central es un cambio de constitución. Terminar con la constitución neoliberal que dejó Pinochet, el dictador Pinochet, y volver a una constitución que esté en beneficio.
Nous voulons un changement de constitution, en terminer avec la constitution néolibérale que laissa Pinochet, le dictateur Pinochet, et retourner à une constitution qui soit en faveur des gens, arrêter de subventionner les entreprises privées, mais s'occuper des besoins de base, avoir un pays qui a un coût équivalent à notre niveau de vie. La lutte se maintient, continue et va continuer de manière spontanée et organisée dans la société pour pouvoir changer la constitution. Les médias manipulent, font des montages, de la désinformation, et dans ce sens c'est terrible, parce que comme après le coup d'État contre Allende,
el derrocamiento del gobierno de Allende, ha habido torturas, ha habido asesinatos, ha habido balas contra la gente, mientras tanto los políticos, los milicos y los policías han fomentado el saqueo de supermercados, han fomentado la destrucción de ciertos espacios. Han
Il y a
habido
des
montajes
tortures, des assassinats. Les politiciens, la police ont fomenté le pillage du supermarché, la destruction de certains espaces, ont fait des montages qu'on a découvert à travers des réseaux sociaux actuels. Tout cela a mis en évidence toutes les violations aux droits de l'homme. Mort, torture, viol, mauvais traitement, montage à tous les niveaux. Mort, torture, viol, mauvais traitement, montage. J'ai des amis qui ont été très frappés. Il y a eu plusieurs morts. La revendication du peuple, c'est un changement structurel. Et pour qu'il y ait un changement structurel de cet État chilien qui maltraite son peuple, renonce à ses droits, parce qu'il voit tout comme une entreprise, privatisation, subvention. Les gens ne veulent plus ça. Et pour que tout ça change, il faut qu'il y ait une assemblée constituante. Un changement de constitution politique qui détermine à travers de la loi d'autres conditions pour les gens, pour le peuple. Voilà.
Ha sido enorme. Ha sido desde la rabia y la euforia hasta la organización y la coordinación.
Ça a été grandiose, depuis la rage, l'euphorie et l'organisation, la coordination. Beaucoup d'influence des processus culturels, comme cette manifestation carnavalesque qui se déroule chaque année depuis 20 ans ici, à travers laquelle les gens ont appris ce qui s'était passé pendant cette période de massacre qu'a été la dictature.
Se volvió a reivindicar un posicionamiento y ya luego, al pasar las generaciones, estamos en una generación de jóvenes que ya no le tienen miedo a la dictadura.
Nous sommes une génération qui n'avons pas peur de la dictature, qui avons formulé des critères contestataires et qui exigeons aujourd'hui non seulement manifestation, mais destruction. Et cette destruction fut contagieuse. Ça s'est transformé en destruction d'espace, de la tranquillité, de la quotidienneté. Les supermarchés ont cessé de fonctionner, mais ont continué les épiceries. Il n'y a pas de problème pour obtenir des produits, mais les médias ont voulu montrer une réalité qui n'est pas la vraie.
Los medios de comunicación han querido mostrar una realidad que no es. Sobran las imágenes de la gente que ha estado en las protestas, en los saqueos, en los distintos momentos que corresponde a la manifestación, ya sea de día o de noche, donde da cuenta de cómo los poderes fácticos, policías, militares, no han hecho su trabajo, sino que han permitido el caos, y en otro sentido, a la gente que va con ollas, que va con pitos en la boca.
Sur les images des gens en manif, des pillages, sur les différents moments des manifestations, que ce soit de jour comme de nuit, on voit les pouvoirs, la police, les militaires, qui n'ont absolument pas fait leur travail, mais qui ont permis le chaos. Et les gens qui viennent avec des banderoles, des pancartes, des sifflets, qui scandent, eux, ils se font disperser violemment, sans respect s'il y a les personnes âgées ou des enfants. Donc voilà à peu près le contexte de ces manifs. 30 ans, on nous vole nos ressources minérales, naturelles, hydrauliques, les fleuves, alors que les politiciens s'en mettent plein les poches. Le néolibéralisme n'a fait que créer des carences dans les conditions de vie humaines des gens qui habitent dans cet endroit qu'on appelle Chili. Ils ne supportent plus ça et revendiquent plus de manière pacifique comme toujours, mais s'est développé le chaos d'une manifestation à l'échelle d'un pays. Différents secteurs politiques internationaux ou nationaux ont voulu profiter ou s'attribuer du phénomène. São Paulo dit qu'il y a conspiration russe, par exemple. Après tant d'années d'injustice, le peuple chilien veut montrer qu'il ne le supporte plus et s'organise d'une autre manière, pour dire c'est fini. Et même si le gouvernement a tenté de donner des solutions, nous savons que ce ne sont pas des solutions profondes, qui ne répondent pas à un changement de la loi. Ce mouvement va continuer jusqu'à qu'il y ait une réponse concrète, que soit viré le gouvernement qui a été incompétent face à cette crise. Ces manipulations, personne n'y croit. Et tous les gens affiliés à ce parti d'extrême droite, pareil. Les conditions de vie sont évidentes, la qualité de l'existence humaine, pareil. C'est pour ça que s'est créé cet octobre rouge, comme certains l'appellent. S'il y a un parti politique qui va en profiter, nous ne leur faisons pas confiance. Tout ça n'a rien à voir avec un parti politique, absolument rien. Il doit y avoir un changement profond, un changement culturel, qui part de la Constitution, des lois, et qui permettra d'autres conditions de relations humaines, d'existence. changer le paradigme néolibéral, générer une conscience, une autonomie, une revendication des conditions sociales qui ont créé cette crise qui s'est développée depuis 30 ans après la dictature.
Los niveles de represión se
la répression s'organise à deux niveaux. Le premier est l'état d'urgence, qui est le moment où la police rétablit l'ordre public après une catastrophe naturelle qui correspond à un article spécifique de la Constitution. Le second, en parallèle, qui a été mis en place, est le couvre-feu, où les personnes qui sont dans la rue après le couvre-feu peuvent être arrêtées, alors que rien ne prouve que ces personnes aient manifesté. Dans le calendrier restreint des 10 derniers jours, on sait qu'il y a eu des tortures de personnes arrêtées et des abus qui sont réalisés quand la rue est vide. Dans les manifestations, la police, je ne sais pas si j'oserais dire que le gouvernement l'avait planifié, mais en tout cas, c'est très probable que la police ait permis les pillages de certains lieux afin de créer un sentiment, une atmosphère qui permette ensuite de justifier une prise du pouvoir militaire. Mais heureusement, ce plan n'a pas marché, n'a pas fonctionné. Les protestants marchent pacifiquement, sans armes, sans rien, se font tirer dessus à balles réelles. Il y a eu des rapports qui ont été faits par des organismes publics. Pour l'instant, on recense 20 morts, la perte de membres, des personnes éborgnées, des problèmes respiratoires, du gaz lacrymogène, tout ce que vous pouvez imaginer par rapport à ça. La répression a atteint le niveau d'une dictature militaire. Les perspectives des prochains jours, c'est de continuer, le peuple va continuer. Même si le président a tenté de dire à deux reprises que tout se passait bien, que le calme était revenu, en réalité, il y a beaucoup de gens qui continuent de protester et de défiler dans les rues. Tous ces gens savent qu'il y a un besoin, une demande sociale dans plusieurs secteurs de la société, tels que la santé, l'éducation, les retraites, les transports, les impôts, les salaires des politiciens, aussi une grande demande d'accès au logement. Et toutes ces choses ne pourront changer que lorsqu'ils changeront la Constitution. Ce gouvernement a proposé des réformes économiques pour inciter à une reprise. Ça ne change pas la racine du problème et ça ne sert qu'à parfaire à certains défauts sans mettre en cause le financement des entreprises privées dont le bénéfice ne revient jamais au peuple. Pour cela, les manifestants vont continuer tant qu'il n'y aura pas de changement réel. Il correspond à une nouvelle constitution politique de l'État chilien. Vivent les luttes sociales, vivent les mouvements d'urgence qui permettent un véritable changement et la destitution de ceux qui croient avoir le pouvoir. Parce que nous devons trouver d'autres manières de s'organiser afin de répondre aux besoins locaux pour mettre fin aux mensonges de l'économie boursière, internationale, spéculative, avec des agences subordonnées à des mécanismes de domination et de pouvoir, pour en terminer avec les inégalités et les opérations économiques. C'est terrible que c'est impossible de mettre en cause ces dominations pour en finir avec les mécanismes coloniaux qui sont mis en place dans la société. Nous devons reformuler la normalité de manière à construire une perspective d'ensemble différente qui s'ajuste et prend en compte les différentes nécessités locales de chaque personne concernée, groupe d'humains dans chaque endroit de la planète, tout en permettant un accès à tous à la technologie. Pour mettre fin à ce concept néolibéral, consumériste, individualiste, qui a placé la communauté dans cette grande crise que nous devons rectifier, nous devons reformuler, nous devons continuer également à réagir chaque fois qu'il est nécessaire, et donc manifester et ne pas fuir. Je crois que collectivement, on a les capacités de décider car on est des esprits pensants, nous sommes des êtres humains rationnels et nous avons l'incroyable possibilité de nous organiser entre les différents niveaux de la société et du pouvoir et définir activement le cours de ce qui se passe et de ce que nous appelons l'humanité.
En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los pacos.
Quema, despierta, renuncia, Piñera. Pola la meda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años. La constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo que escucha vecino, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos. Llegó la revuelta y el cacerolazo. Macarena Valdés, Numa FP, abajo el TPP, por la educación y por la salud, ni la razón ni la fuerza, Numa es la
victoria. Cacerolazo, 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 cacerolazo.
Escucha de lejos la cacerola, si la olla suena que no estamos piola. Miedo. Cacerolazo, no estamos en guerra, estamos alerta, vivita, guachita. Chile despierta, cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo, no somos alienígenas ni extraterrestres, no cachai nada. Es el pueblo rebelde, sacamos la joya y nos mataron a los asesinos. Cacerolazo,
cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo.
Como se dice, lo que viene es alienígena.
Asesino lo quitaron tanto que quitaron el miedo. Apunta a disparar asesino del pueblo. Si no hay justicia, no hay paz para el gobierno. Ahora tú dime quién es el violento.
Lo más importante, como se dice, lo más importante es la cabeza arriba. La cabeza arriba. Muy, muy, muy.
No hay cabeza
fría y cabeza fría. No
hay cabeza
fría. Muy grave.
No hay cabeza
fría. Muy grave. Que el menino que se
deleje.
Que el menino que se deleje.
Et donc, on va passer au deuxième reportage de cette émission, qui lui a été réalisé mardi dernier avec un copain et qui revient sur les différentes mobilisations qui ont pu s'organiser en solidarité au mouvement qui se déroule au Chili depuis le 18 octobre à Paris. On vous laisse écouter ça.
Alors, bonjour. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Moi, je suis Claudio Pulgarpino, j'habite à Paris depuis quelques années, je suis d'origine chilienne et je suis les luttes tant ici à Paris, en France, comme au Chili, depuis toujours. Donc, je suis très touché par les choses qui se passent maintenant au Chili.
Alors, ben justement, on t'a contacté pour pouvoir discuter un peu de ça avec toi. La première chose sur laquelle on voulait revenir, c'est est-ce que tu pourrais nous donner un peu pour toi le contexte politique et social avant le 18 octobre qui va pousser en fait au déclenchement du soulèvement auquel on assiste depuis maintenant plus de deux semaines au Chili.
Bah, je pense qu'on peut faire des entrées, des plusieurs entrées différentes. Le 18 octobre, il y a un mouvement, on va dire, aujourd'hui insurrectionnel qui s'est déclenché à Santiago, mais qui maintenant c'est dans toutes les villes, qui a commencé quelques jours avant. Mais donc, ça a déclenché, pas les 18, ça a déclenché un peu avant par les lycéens. C'est important de parler des lycéens parce que les lycéens, historiquement, les dernières années, c'est eux aussi qui ont déclenché plusieurs mouvements sociaux de grande ampleur au Chili. Mais donc, 3-4 jours avant les 18, les lycéens, ils ont commencé à frauder de façon collective les métros. Et avec les réseaux sociaux, ça a commencé à faire à tourner partout. Et vendredi 18, c'est pas que les lycéens, c'est beaucoup plus de monde qui a commencé à frauder et c'est la répression qui est arrivée aussi. Et donc ce soir, ça a fini avec une cacérolade énorme dans toutes les villes contre la répression et pour soutenir les lycéens. Et quelques heures après, il y a une ambiance insurrectionnelle qui s'est installée, tout a commencé à brûler. Et quelques heures après, ça a été déclaré l'état d'urgence et l'armée était sortie dans la rue et il a commencé une répression énorme. Mais si on va aux racines de tout ça, je pense qu'il faut parler au moins de trois choses. Un, le Chili, ça a été le laboratoire du néolibéralisme dans le monde. La dictature de Pinochet, je vais passer rapidement pour ça, mais la dictature de Pinochet a installé le néolibéralisme à la force, sans opposition politique, avec des gens disparus, avec des morts, avec des exilés, etc., etc., avec la répression politique. Et à partir de 1975, au Chili, ça a été expérimenté le néolibéralisme le plus dur et le plus profond. Dicté par les Chicago Boys, qui c'était des économistes chiliens qui ont fait des études à l'université de Chicago avec Milton Friedman. Et même Milton Friedman, il est venu au Chili en 75 pour soutenir Pinochet pour toutes ses réformes. La même année où il a eu son prix Nobel d'économie. Et ça a donc comme résultat une société où la santé, l'éducation, les retraites et tous les domaines de la vie sont privatisés, sont mis dans le marché et où 90% de la population est obligée pour survivre à s'endetter. Donc j'explique ça très rapidement, c'est un résumé un peu caricatural, mais c'est beaucoup plus large à expliquer. Mais c'est ça. Donc ça, c'est depuis les années fin des 70 et qui a été incrémenté et qui a été approfondi par les années de la, entre guillemets, démocratie, de la transition à la démocratie dans les années 90, qui ont administré les mêmes modèles. Par exemple, pour dire un exemple concret, la constitution qui a été faite par Pinochet en 1980, c'est la même qui est en actualité aujourd'hui. C'est la même constitution, on a la même constitution de Pinochet. Et donc tous les gouvernements, parce que la dictature s'est finie en 89, les gouvernements entre guillemets démocratiques qui commencent en 90 et jusqu'à maintenant, mais ils n'ont rien touché du pilier du modèle néolibéral à part l'administrer ou l'approfondir même. Et donc ça a donné des petites explosions de temps en temps, des quelques groupes, c'est pas les travailleurs sous-traités d'un côté dans la fin des années 90, les étudiants au début des années 2000, les lycéens en 2006 avec la révolution des pingouins, parce que c'est les uniformes des lycéens qui c'est des pingouins, donc c'était la révolution des pingouins qui ont réussi à mobiliser 1,5 million de lycéens dans quelques jours et ont bloqué le pays pendant un mois. Mais ça a été comme ça, ça a été une explosion. Après, en 2011 aussi, c'était les étudiants des universités, encore plus fort, un mouvement très très fort qui occupait les universités et les facs pendant 6 mois, 7 mois, avec un soutien très fort de la population pour contester l'éducation des marchés, et il faut payer dans tous les domaines, etc., pour contester cette idée de faire du profit avec des droits sociaux dans tout le domaine. Ça, c'était un énorme mouvement qui a vraiment révolutionné aussi. Surtout, je pense, c'est une révolution culturelle parce qu'elle a changé un peu la donnée de dire les gens, maintenant, ils disent bon, ça suffit là. Mais ça a resté dans ça. Ça a continué année après année, des mouvements étudiants très forts, etc. Après, l'année dernière, ça a été les mouvements féministes. C'est une vague mais énorme avec aussi, c'est intéressant, avec des occupations des facs, avec des revendications féministes. Avec des grèves féministes, un truc énorme, comme en Argentine, comme en Espagne, très lié à ça. Et maintenant, je pense, pour revenir à l'actualité, cette montée des prix des tickets de métro, ça a été que la goutte qui a débordé vraiment une espèce des casseroles à pression qui étaient en train de bouillir et bouillir et bouillir.
Une cocotte minute
qui était en train de bouillir depuis des années. Et qu'il fallait un truc comme dans toutes les histoires des révolutions, des insurrections, un truc qui paraît que sans importance, entre guillemets, dans la longue histoire, ça déclenche un truc qui est beaucoup plus profond. Et donc, la revendication, si on peut dire aujourd'hui, il n'y a pas une revendication comme ça, un pétitoire avec 10 points, parce que d'un côté, il n'y a pas une seule organisation derrière ça. De fait, toutes les organisations sont complètement dépassées par la force de l'insurrection. Même s'il y a des organisations qui sont et qui ont compris qu'il fallait se mettre entre guillemets au service de ce soulèvement, et c'est très bien là. Il y a une unité très forte des mouvements sociaux historiques et des syndicats, etc., qui ont monté une espèce de coordination qui s'appelle la unité sociale, mais qui va un pas en arrière. Donc la revendication aujourd'hui, tout a été entre guillemets d'un côté, je pense que ça c'est un peu risqué, mais personnalisé dans le président Piñera actuel, de dire qu'il faut sa démission. Donc les gens qui sont aujourd'hui dans la rue depuis 11 jours, et avec les moments qui montent et qui n'arrêtent pas de monter, et qui est chaque fois plus de monde, chaque fois plus de radicalité, ils disent mais on ne perd rien avec discuter avec personne, avec ce président qui a sorti l'armée, qui a fait tirer l'armée sur les peuples, qui a construit dans quelques jours des centres de torture, où il y a des gens disparus, il y a des femmes qui ont été violées par l'armée, etc. Donc c'est vraiment, il a déclaré qu'il était en guerre. Ouais. Et tout le monde dit mais nous on n'est pas en guerre là, c'est eux. C'est les pouvoirs qui sont en guerre contre les peuples. Mais les gens, et c'est ça, c'est intéressant, ils disent, nous, on n'est pas en guerre, on est en train de protester, on est en train de revendiquer des choses, de la dignité. C'est très intéressant aussi dans le sens, si on pouvait faire les parallèles avec les printemps arabes, même si je n'aime pas le mot, mais avec les soulèvements qu'il y a eu en 2011 en Tunisie, en Égypte. C'est vraiment une révolte, une révolution, on va dire, pour la dignité. Les gens, ils se sont... Il y a une espèce, c'est pas d'aujourd'hui, mais il y a une espèce de prise de conscience généralisé dès que l'injustice c'était ça, on pouvait pas continuer comme ça. Et ça c'est énorme parce que c'est vraiment un changement révolutionnaire dans une portion de la population très majoritaire là. C'est dans tous les quartiers populaires, les gens sont mobilisés avec des blocages, des barricades, des casserolades tous les soirs, des blocages des autoroutes, mais même dans les quartiers des classes moyennes, on va dire, et dans les quartiers Vourges, les gens ils sont sortis dans la rue parce que personne s'attendait à voir des tanks, l'armée dans la rue, etc. Et même, on va dire, je pense que les gens, tu vois, les classes moyennes, les classes un peu, on va dire, pas les riches, mais les gens un peu privilégiés, qui ont fait des études, etc., ils se sentent concernés parce que c'est des gens aussi précarisés à la fin, même s'ils ont un peu plus d'argent. Tout le monde est obligé de payer pour la santé privée, pour l'éducation privée, etc. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience très très rapide et très très profonde dans seulement quelques jours. Et pour revenir à la revendication, je pense que c'est une revendication vraiment contre la légitimité des gens qui sont au pouvoir, pour dire qu'on ne peut pas rien faire, on ne peut rien faire avec eux. Parce que c'est eux aussi les coupables de la situation actuelle. Donc on ne peut pas négocier avec les gens qui nous ont amenés à cette situation. Deuxième chose, la Constitution. C'est un truc qui sort très fort de dire qu'on est toujours coincé dans tous les domaines, dans tous les domaines des droits sociaux, etc. À cause de la Constitution de Pinochet qui défend les profits, qui défend la propriété privée, etc. Donc il faut changer la Constitution. Donc il y a beaucoup de monde qui commence à parler avec beaucoup de force d'Assemblée constituante. Mais on ne va pas dire que c'est que ça la revendication. Je pense que c'est une méthode de sortir, de reconstruire les choses. Mais c'est plutôt la revendication de se dire que ça suffit, qu'il faut arrêter. Et qu'il faut changer, et qu'il faut faire partir à la classe politique actuelle, et qu'il faut changer ce modèle néolibéral qui crée que des injustices, qui fait qu'il y a 70% de gens qui gagnent les minimums, et qui sont 80% de toutes ces ressources, c'est à cause de l'endettement. Donc ils payent des dettes avec des autres dettes, donc ça c'est pas soutenable pendant plus de temps.
Et puis même, parce que là, tu disais que ça allait plus loin que juste la question du gouvernement. Et justement, on peut le voir, puisqu'il y a eu proposition de changement du gouvernement et les manifestations ne se sont pas du tout arrêtées, en fait.
Ouais. Bah, parce que je pense qu'il y a un écart des réalités entre les gens qui sont au pouvoir et la rue, on va dire, pour dire ensemble. Il comprend rien là. C'est ça, il comprend rien. La seule réponse qu'ils ont, c'est la répression. Et ils se sont dit, on va changer les ministres, on va faire un remaniement du gouvernement. Mais ils ont changé quelques ministres. Ils sont changé des places des autres, mais ils ont gardé les mêmes ministres d'éducation, les mêmes ministres de transport, les mêmes ministres de santé. Que c'est des responsables, et pour les gens, c'est des têtes visibles. Ils ont changé les ministres de l'Intérieur, qui est le responsable de la répression. Mais maintenant, hier lundi, quelques députés d'opposition, ils ont déposé une accusation constitutionnelle. Donc il y a dans la constitution, même cette constitution de Pinochet, il y a une sortie institutionnelle, on va dire, où les parlements peuvent accuser les présidentes et les ministres s'ils sont pas tenus, s'ils sont pas fait bien son boulot, entre guillemets, autour de la constitution. Et il y a plusieurs avocats qui disent que cette semaine qui a eu d'état d'urgence, c'était hors la loi, c'était illégal. Et l'état des sièges, des faits qui sont faits, c'était pas, il faut que ça passe par l'Assemblée nationale, ça n'a pas passé. Donc il y a maintenant, ça c'est, on va dire, les côtés un peu institutionnels de la contestation, que je pense que c'est important de les faire, parce qu'il faut, dans ces moments d'insurrection, il faut combattre dans tous les fronts. Mais la rue, je pense, ne va pas s'arrêter jusqu'au départ du gouvernement. Là. La radicalité, c'est ça. On l'a vu hier, parce qu'hier, il a annoncé les changements du cabinet, du ministère, et à midi, et à midi, une minute, il y avait des milliers de personnes dans la rue, et hier, il y a eu des manifs partout, des blocages. Et je pense qu'on peut parler de tous les modes de lutte aussi.
C'est ça, parce que justement... Ça peut peut-être être un peu surprenant, mais nous, en fait, enfin, même toi d'ailleurs depuis tout à l'heure, mais nous aussi, on emploie le terme insurrection, parce que justement, en fait, on n'a pas l'impression que... Parce que ça répond à une diversité de modes de mobilisation. Est-ce que tu peux, voilà, nous donner quelques éclairages, illustrations autour de ça?
Je pense que c'est hyper intéressant parce qu'il y a une espèce de batterie très diversifiée des modes de lutte et qu'on peut voir tous les jours et dans chaque quartier, dans chaque ville, des utilisations des modes de lutte différents et en parallèle. Ça, c'est super intéressant. Tu vois, c'est pas à dire, allez, aujourd'hui on fait une grève générale et demain on fait une manif. Non, ça commence à commencer de façon inorganique, pas entre guillemets, pas organisée par une organisation centralisée, etc. Ça a commencé avec les lycéens qui fraudaient dans le métro, donc avec la désobéissance civile partout. Après, ça a enchaîné avec les cacérolades. Mais des cacérolades massives, tu vois. C'est des cacérolades, c'est la ville complète, des villes complètes qui sortent par la fenêtre ou qui descendent dans son coin, dans son quartier, à taper des casseroles. Et tout le monde peut faire ça parce que tu n'as pas besoin de tenir une barricade. Il y a des gens qui font ça dans des barricades, mais des gens qui font ça dans son immeuble depuis sa fenêtre. Après, ça... Bah, les grosses manifs, mais qui ne sont pas non plus des manifs qui sont appelés par n'importe qui, c'est des manifs un peu qui s'appellent dans les réseaux sociaux. Il y a des lieux symboliques depuis toujours au centre-ville à Santiago, un lieu qui s'appelle Place Italia, où tout le monde sait qu'il y a un rassemblement tous les jours là-bas. C'est, on va dire, la place Tahrir du Caire. Tout le monde ressemble à, il y a ces rassemblements tous les jours là-bas, mais pas que. Dans toutes les places de toutes les communes, par exemple, si on parle de Santiago, en général, dans chaque commune, il y a une place un peu plus reconnue. Tout le monde se rassemble dans les places. Et comme ça, les gens ils décident, ils partent en manif, il n'y a que des manifs sauvages partout. À ça, on peut rajouter les modes de grève. D'un côté, il y a des grèves qui ont été appelées la semaine dernière. Il y a eu deux journées de grèves générales très suivies. Et très important, surtout dans des lieux de production stratégique, on va dire les dockers et les mines, les mineurs, que c'est deux des lieux stratégiques les plus importants au Chili, qui c'est un pays où les exportations, c'est très important. Donc les dockers, c'est clé, et les mines, c'est un des ressources basiques. Donc les mines et les dockers en grève, plus grève générale, et on va dire, on parlait avant, il y a une espèce de grève des contraintes à tout le monde à faire la grève, parce que la semaine dernière, plusieurs stations de métro ont brûlé, des centaines de bus ont brûlé. Donc, c'est très difficile de se mobiliser dans Santiago, par exemple. Donc, les gens ne peuvent pas aller au boulot. Ou s'ils vont au boulot, ils vont en vélo, en marchant, avec des voitures un peu partagées, des covoiturages. Mais c'est hyper difficile. Donc, où les gens sont, entre guillemets, en grève technique, parce qu'ils ne peuvent pas aller à travailler, ou ils vont travailler, et ça, c'est hyper intéressant. Les gens qui réussissent à aller travailler, ils travaillent entre 10 heures et 15 heures. Donc, c'est ça la journée de travail aujourd'hui. Okay. Normalement, au Chili, nous, on est, et c'est intéressant, au Chili, en France, c'est 35 heures la semaine de travail. Au Chili, c'est 45, même plus, officiel. Il y a, juste avant ce moment insurrectionnel, il y avait une discussion pour passer à 40 heures. Mais maintenant, on est passé, obligé par les circonstances de l'histoire, les gens ils sont en train de travailler, je sais pas, 20 ou 25 heures par semaine. Et c'est hyper intéressant parce que je parle avec mes copains, avec mes camarades, avec mon frère, etc. Et ils me disent, mais les gens, ils se sont rendus compte qu'ils avaient une vie aussi. Donc, les gens, ils travaillent jusqu'à 15 heures. À 15 heures et demie, à 16 heures, ils sont dans les quartiers. Les gens, ils se rendent compte dans les places. Les enfants, ils sont tous à la maison parce que les écoles sont fermées. Donc les parents, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient passer du temps avec ses enfants. Les gens, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient se rencontrer avec ses voisins. Que pour partager, pour faire des repas, ou pour s'organiser, pour organiser les manifs, les quartiers, pour organiser on parle des ollas comunes, pour organiser des espèces de casseroles en commun, des cantines populaires dans les quartiers, surtout dans les quartiers populaires. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est comme quand il y a un tremblement de terre ou un truc comme ça, que les gens ils se rendent compte qu'ils en voient ça, qu'ils peuvent se rencontrer pour survivre. Là, il y a cette espèce de tremblement de terre social qui frappe les gens, qui bloque, entre guillemets, les fonctionnements, entre guillemets, normaux de la ville telle qu'on la connaît, mais qui fait et qui oblige les gens à se rencontrer, à s'organiser, à parler de politique, à parler de quelle est la sortie de ça, comment on fait, comment on s'organise. Et ça, je trouve que c'est énorme. C'est vraiment 10 jours où on a passé, si on fait le parallèle avec les Gilets jaunes, là. Ces 10 jours, c'est comme les 11 mois des Gilets jaunes sont passés au Chili en 10 jours. C'est 11 jours, 11 mois en 11 jours.
Bah, si tu prends tous les samedis et qu'au lieu de le faire une fois par semaine, tu le fais tous les jours, au final, ça fonctionne vachement bien. Hein, voilà, on peut pas mentir. Alors justement, vu que là, on vient de commencer par le parallèle à se réintroduire sur la métropole française, il se passe aussi des rassemblements en solidarité à tout ce qu'il y a au Chili. Et toi, tu as participé, puis tu en as organisé certains. Est-ce que tu peux revenir sur les différentes choses que vous avez pu faire pour l'instant?
Nous, on était. Tout ça s'est déclenché vendredi 18. Samedi, on a commencé à penser. On n'a pas dormi, beaucoup de nous, on n'arrive pas à dormir. Mais ça fait depuis 10 jours, 11 jours que je ne dors pas. En plus, avec les décalages avec Chili, on poursuit les choses là. Mais. Samedi on a commencé à s'organiser. Dimanche il y a eu un appel et il y a eu un rassemblement important déjà au Champ de Mars avec la Tour Eiffel, parce que c'est symbolique, c'était pour envoyer. Après lundi, je sais pas la date, mais lundi dernier là, on a occupé l'ambassade du Chili en France, le 21, on a occupé l'ambassade le matin. On s'est fait expulser par la CRS et après les soirs on a fait un rassemblement énorme face à l'ambassade. Il y avait plus de 1000 personnes, je ne sais pas, avec des soutiens des figures politiques françaises, des syndicalistes, etc. Très bien. Mardi, encore un rassemblement, il y avait au Champ de Mars. Mercredi, un grand rassemblement à République, aussi avec plein de soutien et avec des convergences. Mardi aussi, on s'est rencontré avec les Gilets jaunes, lundi depuis. Mardi, on était à l'Assemblée d'Île-de-France des Gilets jaunes pour commencer à parler et faire des choses ensemble. Mercredi, rassemblement en République. Jeudi, rassemblement au Champ de Mars. Vendredi, je ne me rappelle pas.
Où c'était tous les jours en vrai.
Non, c'était tous les jours ici. Donc c'était la folie là. Je ne me rappelle pas exactement. Mais les importants, c'était mercredi en République. Et samedi, on a fait une manif convergence avec les Gilets jaunes. Parce que pour nous, même s'il y a des gens qui disaient « Ouais, mais les Gilets jaunes, gna 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 gna. » Mais à mon avis personnel et beaucoup des camarades aussi, c'est très lié les mouvements des Gilets jaunes à la chose qui s'est passée au Chili, à les moments insurrectionnels au Chili, peut-être aussi au Liban, en Haïti, en Irak, dans ces moments. Mais c'est très important pour nous qui on est des Chiliens, des Franco-Chiliens qui ont habité en France, qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes, qui ont participé aux luttes en France, de faire les liens. Parce que pour nous, les choses qui sont en train de se passer en France, on va les dire dans un mot, c'est la chilénisation de la France. Là. La réforme des retraites, les réformes aux universités, les réformes à la sécu, les réformes. C'est de transformer la France dans le Chili qui nous a laissé Pinochet. Là. Donc, et comme nous, on les connaît. Et comme nous, entre guillemets, ça fait des décennies qu'on essaie de les combattre. Et maintenant, avec cette insurrection, il faut faire les liens. Et il faut comprendre que c'est finalement la même lutte. Hein. C'est les mêmes projets ennemis qu'on doit combattre. Et même, je pense qu'on doit partager des méthodes de lutte, on doit partager des expériences et nous soutenir mutuellement. Parce que finalement, c'est une lutte internationaliste.
Bien sûr.
Et je pense, si j'en reviens au Chili, si on arrive au Chili aujourd'hui à battre et à gagner, à battre le néolibéralisme, je pense que ça va déclencher. Et je ne sais pas parce que je suis chilénocentriste, hein, mais je pense que ça va déclencher, et c'est en train de déclencher, hein, une vague de soulèvements partout dans le monde, parce que c'est le Chili, les laboratoires du néolibéralisme. C'est au Chili où ils ont expérimenté ça. Les marchés sauvages radicalisés à fond. Donc si on arrive à les détruire au Chili, ça veut dire qu'on peut le faire partout, là.
En plus, nous, on est pour ça, hein, transmission des techniques, des savoirs, c'est tout à fait intéressant. Et résultat, le samedi, avec les Gilets jaunes, ça s'est bien passé pour vous, en plus ?
Super bien, super bien. On était plusieurs milliers à occuper les rues de Paris, de Bercy jusqu'à Belleville, où on s'est fait gasser et matraquer par les flics, comme partout, là, les flics, c'est les mêmes partout. Mais c'est intéressant, parce que vendredi, j'avais oublié, vendredi, on a fait une super assemblée de coordination, parce que jusqu'à maintenant on était un peu aussi inorganique, on était un peu en train de faire des actions. Et vendredi on a fait une assemblée pour nous coordonner avec des forces locales aussi, et on a monté une coordination qui s'appelle Chili Solidarité ou Solidarité Chili. Et donc avec cette coordination où il y a des collectifs de Chiliens, des syndicats français, des partis politiques français, des mouvements locaux, des gilets jaunes, etc. C'est vraiment une convergence de lutte dans le cas Chili, de la solidarité avec le Chili. On a organisé hier un rassemblement à République, donc pour dire quelques les soutiens de la CGT, de Solidaire, de l'Union syndicale Solidaire et plusieurs autres. Et avec ça, on fait une prochaine assemblée vendredi, si je ne me trompe pas. Et
qui se passerait où?
Je n'ai pas l'info actuelle parce que la salle où on le fait, c'est ici dans le quartier, ça devient trop petit parce qu'on était une centaine.
C'est très bon signe, par ailleurs.
C'est hyper bon signe.
La salle est trop petite, c'est super. Ouais. C'est une bonne information en réalité.
Non, mais déjà, tout nous devient petit là. Et donc, vendredi prochain, c'est la prochaine assemblée. On va confirmer la salle. Mercredi, donc demain, il y a un rassemblement encore. Normalement, ça s'appelle un bellaton. Donc, tout le monde va sortir des, comment on dit, les trucs qu'on allume là.
Ah, des cierges.
Des cierges pour faire un hommage à tous les morts ces derniers jours. Mm-hmm. Parce que c'est plus d'une vingtaine de morts officielles, mais nous, on sait que c'est beaucoup plus. On n'a pas de chiffres encore. Même les organismes un peu humanitaires ou des droits de l'homme, des droits humains, ils ne sont pas des chiffres concrets. Les officiels, c'est 23 morts, mais il y a des chiffres qui partent de plus de 40. Une centaine des gens éborgnés, plus de 2005 des gens arrêtés, plus des 700 blessés. C'est un truc énorme. Et ça, que des chiffres très qui ne sont pas réels encore. Là.
Bien sûr.
Ouais. Donc, ici, on va continuer. Et surtout, moi, personnellement, et avec beaucoup de gens, on se rend compte que c'est très important Je reviens à l'idée de la chilénisation de la France et de ne pas être chilénocentriste, mais c'est très important l'enjeu au Chili dans ces moments, à cause d'un côté de la force, de la radicalité et de la, on va dire, de la force des gens dans la rue qui ne vont pas rentrer chez eux jusqu'à vraiment à gagner. C'est ça, les gens ne vont pas attendre des miettes pour s'arrêter. Et je pense que la situation ici en France et dans le monde en entier, c'est très lié à ça, je pense. Et ici, ça va être un an des Gilets jaunes bientôt. Il y a la grève générale aussi pour le 5 décembre. Je pense qu'il faut faire les ponts, construire les ponts et faire les liens. C'est ça le plus important, je pense, en ce moment. Et comprendre que si on gagne là-bas au Chili, on peut gagner partout. Là.
Ouais. Bah alors, je vais te laisser le mot de la fin. Merci beaucoup.
Merci et on se verra dans les rues partout là.
Sûr.
Nació un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer gato que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la existencia. Pero en el patio hicieron la competencia, fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970, 1970, 1970, 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nace la serpiente. 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nace la serpiente. Adolescencia fue una etapa bizarra, el cuerpo es batería y la cabeza guitarra. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas de información que cambian temporadas, caminas encrucijada. Cada cual en su morada preparaba la carnada, la sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila la verdad nunca buscó su silla, mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva.
Si vous voulez en savoir plus, eh bien, il y a 4 textes donc, qui ont été traduits du chilien sur le site aussilibertaire.l'autre.net et qui ont été mis sur ce site dimanche dernier, le 3 novembre, donc c'est très récent. Ensuite, petit rappel tout de même pour... c'est pas dit dans ce qu'on a publié aujourd'hui, c'est le coup d'État de Pinochet date de 1973. Puis la dictature militaire a duré jusqu'en 1990.
Alors le dernier morceau là qu'on a écouté, ça s'appelait 1973 justement.
D'accord. Bon, alors qui a d'ailleurs, ça s'explique aussi qu'il y ait des Chiliens à Paris, puisqu'il y a eu un certain nombre de gens qui ont réussi à se sauver et qui ont demandé l'asile politique à cette époque-là en France. Bon, il n'y a pas qu'en France d'ailleurs qu'ils sont allés, puis ils sont allés aussi, bien évidemment, en Espagne. Bon voilà, alors je crois qu'on va peut-être se quitter là-dessus, si ce n'est quand même de vous annoncer que le numéro 294 de notre revue Courant Alternatif de novembre est sorti. Dans ce numéro, vous pourrez lire des articles sur l'international. Je commence par la fin du journal, puisqu'on a passé un truc du Chili. Là, il y a un article sur le Venezuela, il y en a un autre, bien évidemment, sur le Rojava. Il y en a un autre sur Hong Kong, et il y a un autre aussi en Algérie actuellement. Ça bouge beaucoup en international. Ensuite, il y a un dossier, la deuxième partie du dossier où va le féminisme. Il y a aussi ce qui se passe au niveau, bien évidemment, de, social, avec, je crois, un article sur le rail en déconfiture, des nouvelles du rail en déconfiture. Il y a un article sur l'immigration, un thème récurrent, bien pratique pour l'État. Là, cette fois-ci, c'est bien en France. Nos rubriques habituelles, hein, Sans frontières, Big Brother et puis Vertement écolo. Voilà, on va peut-être se quitter là-dessus et puis on se retrouve la semaine prochaine. Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'Écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à Local à Saint-Girons et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51 ainsi que sur Internet. All my life.